Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, amis auditeurs. Patrick Simon au micro. Alors, aujourd'hui, dans cette période estivale, nous allons vous raconter des histoires, puisque ce sera la rediffusion de certains feuilletons. Et pour raconter ces histoires, si vous les aimez, eh bien, envoyez à la radio des fonds, des dons, pour que nous puissions continuer à en produire de ces histoires. Certaines auditrices et certains auditeurs m'ont écrit pour me complimenter pour ces histoires à la loupe. Ils apprécient les rebondissements qui se produisent et donc je tiens sincèrement à les remercier. Alors, souvent, ces histoires qui sont racontées et jouées par mes acteurs se passent en plusieurs épisodes, ce qui peut être frustrant pour les auditeurs qui manquent un épisode, le 1 ou le 2 ou le 3, l'épisode suivant. Alors, ce que j'ai décidé de faire pour combler cette frustration, je vais profiter de ces mois d'été pour rediffuser entièrement certaines histoires et il n'y aura plus de coupure. Alors, pour aujourd'hui, j'en ai sélectionné deux qui sont celles qui semblent avoir été le plus appréciées par les auditeurs et auditrices. Et avant de la lancer, ça me donne l'occasion de souligner quatre petites choses. Premièrement, vous remarquerez, vous aurez remarqué que les personnages principaux de ce que vous allez entendre sont souvent des héroïnes féminines. Ce sera le cas de Pamela Santos, qu'on entendra dans La Championne à la fin de ces histoires, et de Maria Montoya, qu'on va entendre maintenant dans La rue du Faubourg du Temple. Pamela Santos, c'est dans La Championne. Alors, l'une comme l'autre de ces femmes change de vie, de caractère, de situation, grâce souvent à des événements qui surviennent inopinément. C'est le suspense et la surprise propre aux histoires que je m'efforce de ménager. Ces femmes, par leurs initiatives, mais aussi par leurs défauts, car même les défauts sont un signe d'originalité de l'être humain, font preuve d'originalité, elles ne se laissent pas influencer par leur milieu. Voilà la chose intéressante que Mario Vargas Llosa m'a appris dans ses romans. Elles ne sont pas prisonnières d'une collectivité, elles sont essentiellement singulières. Elles construisent leur vie de façon créative et d'autres personnages, d'ailleurs, masculins, ceux-là, en font autant dans d'autres histoires. Ça, c'était la première petite remarque. Deuxièmement, la scène sur laquelle se déploient mes petites histoires est mondiale. Pamela Santos est au Brésil, Maria Montoya est originaire de l'Équateur mais vit à Paris. Le milieu où elle gravite est varié. C'est la rue du Faubourg du Temple, c'est cosmopolite comme certains coins de Paris le sont aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cosmopolitisme des oisifs ou des assistés. C'est le cosmopolitisme des commerçants qui travaillent et qui aiment leur métier. Et d'ailleurs, j'en ai préparé d'autres feuilletons qui vont venir plus tard, et qui se passe à l'étranger. À côté de ces caractères vivants, il y a parfois des personnages archétypiques. Je leur ai donné à tous un nom unique. Ce nom, c'est celui de Joe. Et Joe, ça peut être un tas de personnes très différentes. C'est dans la rue du Faubourg du Temple que vous allez entendre, c'est le videur de l'Élysée Liban. Mais ce n'est pas le même que le tenancier du camping de Saint-Tropez pour Marie-Josette Liégeois. Si je les ai tous appelés Joe, c'est parce qu'ils ont des points communs. Je vous en laisse la surprise. Troisièmement, les faits dans ces deux séries que vous allez entendre sont fictifs et sont inventés. Je les ai inventés. Cela n'exclut pas que dans d'autres histoires, ils soient inspirés de faits réels. Par exemple, plus récemment, dans le feuilleton Marie-Josette Liégeois, et j'ai eu recours à des faits divers criminels, des faits divers qui se sont réellement produits, par exemple le vol de crypto-monnaies et l'enlèvement de leurs détenteurs contre rançon, ça c'est réellement produit, ou l'incendie criminel d'entreprise. Et on rediffusera ça la prochaine fois, et parce que c'est plus long et c'est une véritable série policière. Enfin, et quatrièmement, le texte ou les dialogues sont souvent accompagnés d'une musique, pour ceux qui connaissent, vous le savez, et d'un bruitage qui illustre le texte. Alors ça, c'est le travail de Sandrine Moutier, qui fait tout ça avec talent, et c'est aussi elle qui joue les rôles féminins. Mais je vais me taire là et laisser la parole au feuilleton La rue du Faubourg du Temple.
Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Maria Montoya possédait deux immeubles dans la rue du Faubourg du Temple. Lorsque cette rue se termine pour aboutir au quartier de Belleville, elle cesse d'être peuplée de boutiques anonymes de marques à la mode pour devenir plus cosmopolite, plus populaire. Salon de coiffure africain, maroquinerie turque, bijouterie libanaise, bazar indien du Punjab et bien sûr, bar tabac et restaurant chinois. En effet, au fur et à mesure que cette rue monte vers Belleville, elle change de style. Les boutiques deviennent plus petites, les commerçants semblent se connaître comme dans un village et s'apostrophent volontiers pour plaisanter. Les bruits sont plus forts, les immeubles moins hauts, les passants marchent plus lentement. C'est là que se trouvaient les deux immeubles occupés par de nombreux commerces et au-dessus d'eux, par plusieurs locataires aux ressources modiques.
Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie. Vous écoutez la première partie de La rue du Faubourg du Temple, récit de Patrick Simon, montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Maria Montoya était appréciée par tous. Sa charitable prévenance, son allure altière et distinguée, mais toujours discrète. Et par-dessus tout, sa resplendissante beauté, rayon de soleil surgissant dans un ciel gris, oasis verdoyant dans un désert aride, attirait les regards, surtout des hommes. Mais cette splendeur lui permettait aussi de maintenir une certaine distance vis-à-vis de tous ceux qu'elle rencontrait sur son chemin, tant elle en imposait, derrière ses lunettes de soleil qu'elle portait même en hiver, et tant elle en intimidait plus d'un, même les forts en gueule. Son éducation, d'un niveau élevé, faisait que, dans ce quartier modeste, elle pouvait écrire à la place de ceux qui la sollicitaient et en leur nom des lettres destinées aux administrations, tel un écrivain public. C'est que certains commerçants étrangers n'avaient pas tous les codes et usages pour entretenir une correspondance avec la bureaucratie française. Elle n'avait pourtant aucune profession précise. Sa seule source de revenus semblant venir des loyers de ces deux immeubles dont elle était apparemment propriétaire. À certains de ses locataires indigents,
elle ne demandait qu'un loyer dérisoire, voire pas de loyer du tout quand ils avaient des moments difficiles, ce qui lui avait valu cette bonne réputation auprès des indigents, mais aussi auprès des gens sérieux, car quand les impécunieux ne pouvaient payer, elle ne les exonérait pas pour autant, mais leur faisait faire de petits travaux de peinture, de bricolage ou de jardinage en remplacement du règlement de la somme due. Ça leur évitait de tomber dans le piège de l'assistanat ou de la gratuité provisoire. Bref, avec elle, on trouvait toujours moyen de s'arranger avec un peu d'imagination. Elle avait plus de 35 ans, âge auquel, dit-on, les femmes s'approchent du sommet de la magnificence et brillent de tout leur feu. Pourtant, malgré tout cet éclat, on ne lui connaissait ni mari, ni amant, ni enfant. Ce qui était surprenant pour une dame aussi jolie et aimable, ni famille, ce qui était encore plus surprenant. Comme elle était d'origine équatorienne, on supposait que sa famille était restée là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'elle avait dû hériter de leurs biens, ou au moins s'en voir confier l'usufruit ou la gérance, vu ses compétences manifestes. Cependant, il ne s'agissait là que de suppositions, car personne n'avait osé en demander davantage, de peur de paraître indiscret. Tous les mardis et jeudis, elle s'absentait vers la fin de la matinée pour ne revenir que tard le soir. Sans doute se rendait-elle à des rendez-vous d'affaires pour recruter des locataires, vendre ou acheter des appartements, à moins que ce ne fût pour suivre des cours d'anglais, langue dans laquelle elle voulait se perfectionner, ou des cours de gestion ou de droit, car on entendait dire qu'elle avait le projet d'ouvrir une agence immobilière dans le quartier. À moins que ce ne fût pour aller à la piscine, la natation étant son sport favori. Mais aller nager si souvent et si longtemps, n'était-ce pas exagéré? En fait, toutes ces rumeurs n'étaient que des conjectures et non des certitudes. Elle pouvait aussi bien aller se promener, tout simplement. Et la nuit du samedi, elle disparaissait jusqu'à la fin de la matinée du dimanche. Là, on supposait qu'elle partait en week-end dans une résidence de villégiature, puisque toujours elle revenait. Le bijoutier libanais Khalil Mahoud, yeux de fouine enfoncés dans ses paupières, nez busqué et caché de boxeur, vint un soir fêter un anniversaire avec quelques amis dans une boîte de nuit de la rue de la Boétie qui s'appelait Élysée Liban, juste à côté du cœur Samba, c'est-à-dire bien loin de Ménilmontant-Belleville. Une fois entré et installé, le groupe voulut commander des boissons et une serveuse vint prendre leur commande. Mahoud crut reconnaître en elle Maria Montoya. Mais n'en croyant pas ses yeux, il pensa s'être trompé. Certes, elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, mais sa tenue vestimentaire, mini-jupe, chaussures à haut talons, chemisier assez échancré, ne correspondait en rien au style d'élégante discrétion semblable à celui d'une duchesse qui caractérisait Madame Montoya. « C'est fou comme on peut si facilement se faire une fausse impression !» se dit Mahoud. Mais quand il l'entendit renseigner avec précision et amabilité les membres de son groupe, il redevint perplexe. C'était exactement sa voix, ses intonations, son rythme, son accent sud-américain. Et coup de cymbale après un silence sépulcral, quand elle l'interrogea à son tour pour savoir ce qu'il boirait, il n'eut plus le moindre doute, car en souriant, elle lui avait gentiment demandé
« Et vous, monsieur Mahmoud, que prenez-vous ?»
Le bijoutier en fut tout estomaqué. Comment pouvait-elle connaître son nom ?«
Ça alors, vous êtes madame Montoya ?» bafouilla-t-il.
« Non, vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre !»
répondit-elle laconiquement, restaurant ainsi sa perplexité. Quelques minutes plus tard, elle revint avec les verres et les bouteilles, et se penchant à son oreille, elle lui chuchota.
« Ici, je ne suis pas à Belleville, et j'ai un autre nom, Patricia. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. »
Nouvel étonnement de notre homme. « Ainsi donc !» se dit-il, ma propriétaire a un métier nocturne et concret. Elle est serveuse dans une boîte de nuit et semble très à l'aise dans cette profession, comme si elle l'avait pratiquée toute sa vie. En effet, quand on l'interrogeait sur telle ou telle boisson, elle renseignait avec un puissant professionnalisme le client. Et quand la commande était passée, revenait rapide comme l'éclair, avec les consommations qu'elle avait préparées très soigneusement. Il lui arrivait aussi de secouer dans une timbale le gin fizz ou le spritz pour le mieux mélanger. Elle le faisait en cadence musicale, car elle demandait au DJ une musique spéciale tirée du mambo de Pérez Prado intitulée « Patricia ». Et elle agitait la timbale, à droite, puis à gauche, puis en haut, puis en bas, en agrémentant ce manège d'une petite danse bien scandée qui lui permettait de lever un genou en l'air, de tournoyer sur ses talons, de cambrer la taille par instant, de claquer ses doigts en rythme, le tout avec quelques exclamations onomatopiques comme
« Oh, hola, yeah !»
Ces expressions n'avaient qu'une signification assez approximative, mais le spectacle amusait et suscitait de la part de ses admirateurs rires et applaudissements autour du bar. « Voilà qui est proprement stupéfiant !» se dit Mahmoud. « Comment une dame aussi distinguée le jour peut-elle changer de style ?» À ce point, la nuit, je vais revenir dans ce club avec tous les voisins du quartier, rien que pour le plaisir de leur montrer à tous la révélation de notre star. Ça va faire un effet bœuf. Mais voici qu'à nouveau, une étrange péripétie reprit le dessus, car à ce moment même, Maria s'approcha d'un air nonchalant et désinvolte en ondulant de la croupe et, se penchant vers Mahmoud, lui chuchota à nouveau à l'oreille.
« Si vous répétez tout, je démissionnerai aussitôt de ce club et vous aurez l'air ridicule d'avoir raconté un bobard. Mais si vous gardez le secret pour vous, je continuerai même la nuit du vendredi au samedi, en plus de celle du samedi, et vous pourrez venir gratuitement à chaque fois. Vous aurez seulement à me prévenir à l'avance.
Pourquoi ? Osa-t-il répondre.
Pour que je me déguise, de façon à ce que les voisins ne me reconnaissent pas.
Le bijoutier tint parole et s'abstint de divulguer le secret. Captivé par cette extravagance, il revint une fois par semaine, après avoir pris la précaution d'avertir au préalable la serveuse. Celle-ci, informée, se coiffait alors d'une perruque blonde et se parait de fossiles et adoptait, selon les jours ou les circonstances, un accent russe, arménien, oriental ou anglais pour mieux dissimuler son identité à ceux susceptibles de la reconnaître. Cette savante mise en scène fut scrupuleusement suivie pendant plusieurs semaines, Khalil Mahmoud s'attachant à en préserver le mystère. Il venait très régulièrement à l'Élysée Liban avec nombre de ses amis libanais ou d'autres pays, jusqu'au jour où Maria Montoya lui suggéra d'inviter l'un des restaurateurs chinois du quartier. Ce dernier s'appelait Monsieur Li. Mahmoud s'attendait à voir la Montoya déguisée comme d'habitude. Or, il n'en fut rien. Elle se présenta comme elle l'avait fait la première fois et Monsieur Li l'identifia immédiatement, surtout lorsqu'elle lui demanda
« Et vous, Monsieur Li, que prenez-vous ?»
Et encore plus qu'en posant le plateau, elle lui chuchota
« Ici, je ne suis pas à Belleville et j'ai un autre nom. Patricia, c'est comme ça qu'il faut m'appeler. »
C'est ainsi qu'avec Monsieur Li recommença la même histoire qui avait eu lieu avec Khalil Mahmoud. Monsieur Li garda le secret et revint régulièrement avec toutes sortes d'amis de la diaspora chinoise de Paris, 20e et même 13e arrondissement, de plus en plus nombreux. Ils finirent par devenir une bande d'habitués, ce qui faisait les affaires de la boîte de nuit en question et le succès de la serveuse Patricia, car ils étaient de bons payeurs et donnaient de bons pourboires. Un jour, elle suggéra à M. Li d'inviter le patron camerounais d'un des salons de coiffure africains de la rue, Amadou Bito. Yeux de fouine enfoncés par ses paupières, nez busqué et caché de boxeur. Ainsi que Jennifer Egbe, sa coiffeuse en chef, qui était, elle, nigériane. Ces derniers, qui tous les deux connaissaient bien leurs voisins restaurateurs, acceptèrent l'invitation. Monsieur Li s'attendait à voir la Montoya déguisée comme d'habitude. Or, il n'en fut rien. Elle se présenta comme elle l'avait fait la première fois. Amadou Bito et Jennifer Egbe l'identifièrent immédiatement, surtout lorsqu'elle demanda
« Et toi, Jennifer ? Et toi, mon cher Amadou, que prends-tu ?»
Et encore plus quand, posant le plateau, elle chuchota
« Ici, je ne suis pas à Belleville et j'ai un autre nom, Patricia. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. »
C'est ainsi que, avec Amadou Bito et Jennifer Egbe, recommença la même histoire qui avait eu lieu avec Monsieur Li et auparavant avec Khalil Mahmoud. Amadou et Jennifer gardèrent le secret et revint régulièrement à l'Élysée Liban avec toute une bande d'amis camerounais et nigérians, lesquels étaient parfois des musiciens et venaient avec leurs instruments, tam-tam, saxophone, guitare, banjo, pour jouer gratuitement des sérénades, accompagner les danseuses et faire le bœuf, comme ils disaient. Jusqu'au jour où Maria lui suggéra d'inviter le gérant du Punjab Palace, qui s'appelait Georges Sikh. Amadou et Jennifer s'attendaient à voir la Montoya déguisée comme d'habitude. Or, il n'en fut rien. Elle se présenta, comme elle l'avait fait la toute première fois et les fois suivantes, à chaque fois qu'un nouvel invité du quartier mettait les pieds à l'Élysée Liban. À nouveau, elle dit qu'elle avait en ce lieu un nom, Patricia, et que c'est ainsi qu'il fallait l'appeler. Georges Sikh garda le secret et revint de temps en temps avec certains de ses amis du Punjab Palace. Puis ce fut le tour de Mustapha Vetioglu, le maroquinier turc, qui lui aussi découvrit Madame Montoya sous les traits de la serveuse Patricia, qui garda le secret et qui revint à plusieurs reprises à l'Élysée Liban. Au bout de quelques mois, presque tous les commerçants de ce petit quartier du bout de la rue du Faubourg du Temple se retrouvaient dans la boîte de nuit et festoyaient. Ils avaient tous gardé le secret. Mais voici qu'un jour, Khalil Mahmoud fit à la serveuse la confidence suivante. « Je sais ce que vous faites le samedi soir. » Et seulement, les après-midi du mardi et du jeudi, j'aimerais bien le savoir aussi.
« Pour cela, »
répondit Patricia,
« il faut venir à mon bureau. »
Elle lui donna l'adresse et, dévoré par la curiosité, Mahmoud s'y pointa dès le mardi suivant. Le bureau en question était situé bien loin de Belleville, au bois de Boulogne, sur une grande route qui le traversait en laissant de côté à gauche le pré Catelan et en allant vers le stade Roland-Garros. C'était une camionnette blanche avec à l'arrière de petites étoiles rouges qui se croisaient. Mahoud alla à la place du conducteur, mais ne vit personne devant le volant. Il fit alors le tour du véhicule et frappa à la porte coulissante qui s'ouvrit quelques secondes plus tard. Maria Montoya était là, assise et attendait. La réunion se tint, après quoi Maria déclara
« Vous pouvez tout rapporter aux voisins, et même vous devez tout dire, car c'est nécessaire pour votre rédemption. »
« De quelle rédemption parlez-vous ? » demanda Mahoud.
« De celle que le sacrement de pénitence permet. »«
Vous voulez dire la confession ?»«
Oui, car même le péché mène à Dieu. » Saint Augustin ne l'a-t-il pas dit ?« Etiam peccata. »
Assidus et fidèles aux recommandations de Maria, le bijoutier s'empressa de tout rapporter à M. Lee, à Amadou Bito et Jennifer Egbe, à Georges Sik, à Mustapha Vétioglu et à tous les autres commerçants du quartier. Le surlendemain, Madame Montoya reçut de nombreuses visites et, à leur issue, dispensa à chacun la même exhortation sur la confession. Mahoud, Bito et Egbe purent s'y conformer grâce au sacrement de la confession, mais la plupart des autres ne le purent puisqu'ils n'étaient pas d'une religion qui comportait un tel rituel. Aussi se plaignirent-ils de ne pouvoir y recourir. Ces récriminations parvinrent aux oreilles de la propriétaire qui leur fit savoir qu'il n'existait qu'un seul moyen pour y avoir accès : changer de religion. Oh, c'était vraiment beaucoup leur demander. Et ils s'enquirent de savoir s'il existait dans leur religion respective une sorte de confession. Certes, il en existait pour certains, mais l'aveu en lui-même n'était pas suivi de l'acte sacramentel qui efface la chose au moyen du pardon et surtout de la formule prononcée par le prêtre devant le pénitent après sa prière. Cette découverte les lécha avec un sentiment de frustration. Aussi chacun s'en retourna vers sa religion et demanda à ceux qui faisaient autorité au sein de celle-ci d'instituer un véritable sacrement accordant le pardon par une formule rituelle définitive. À l'exception de M. Lee, qui était bouddhiste, et pour qui ça n'avait pas tant d'importance, car on peut avoir deux religions chez ces gens-là. Pour bénéficier du sacrement de la confession, ils se résolurent à changer de religion. Les autres, en dehors de M. Lee, se heurtèrent à un refus catégorique, ce qui les contraria fort. Et c'est pourquoi un certain nombre d'entre eux se résolurent à changer de religion pour bénéficier du sacrement de la confession, ce qui supposait au préalable de recevoir le baptême catholique romain. Mais le prêtre, qui les préparait, objecta. « Ici, on n'est pas au marché. Si vous vous convertissez, vous devez vous convertir à tout. Par exemple, vous devez aimer le Seigneur et aimer votre prochain comme vous-même. » Et il leur raconta la parabole du bon samaritain, et puis celle des filles prévoyantes et insouciantes, celle du semeur, celle du figuier stérile, et puis encore celle des talents, celle de l'enfant prodigue, celle des ouvriers de la 11e heure, des vignerons homicides, et bien d'autres encore. Lorsqu'il leur raconta le miracle de la multiplication des pains, il insista sur la conclusion de Jésus en la schématisant. « Ils me cherchent, parce que je les ai nourris. Ne cherchez pas la nourriture qui se perd, mais celle qui subsiste éternellement. » Et il les interrogea sur le sens. Qu'est-ce que la nourriture qui subsiste ? Et comme ils ne savaient pas répondre, le prêtre les laissa réfléchir sur cette énigme pendant quelques heures, ou quelques jours, ou quelques mois ou années. Quand ils se revirent, ils avaient une réponse, et surtout une action à la hauteur de leur réponse, et ils reçurent alors le baptême. Mais il s'avéra que pour Mustapha Vetioglou, le maroquinier turc, ainsi que pour son accorte et joyeuse épouse Yasmina, qui tenait la caisse, il y avait un problème avec leur précédente religion, laquelle interdisait ce changement et punissait de mort l'apostasie. Or, Vetioglou, comme son épouse, étaient tous les deux devenus très enthousiastes sur leur nouvelle religion et manquaient un peu de discrétion. Ils allaient partout proclamer les vertus de la Sainte Église catholique apostolique romaine au point que cette ferveur parvint aux oreilles des méchants, qui voulurent d'abord s'assurer que les membres de ce couple n'allaient pas revenir à leur ancienne religion. Face à leur véhémente dénégation, ils les menacèrent. « Vous êtes des renégats. On va vous envoyer deux tueurs qui vont vous appliquer la loi qu'on réserve aux traîtres. » Mustapha s'indigna. Ils m'ont haï sans cause. Mais surtout, il s'inquiéta, car il n'était pas assez connu pour pouvoir bénéficier d'une protection policière immédiate, et de toute façon, cela prendrait du temps. Or, la menace n'était pas une plaisanterie, car ce n'est pas pour rien que le mot « assassin »,« assassine » vient de ces pays. « Pour ma sécurité », se dit-il, « et celle de Yasmina, faut que je fasse gaffe désormais. Je connais leur méthode à ces criminels, des étrangleurs de bébés, des massacreurs de femmes enceintes, des monstres de Satan assoiffés de sang et gonflés de haine. » Il chercha donc une solution rapide. Et il approcha Joe, le videur de l'Élysée Liban. Un gros balèze, chauve et musclé, aux yeux de fouine enfoncés par ses paupières, au nez busqué et gâché de boxeur. On disait qu'il fricotait un peu avec des truands et toutes sortes de gens peu recommandables. Au moins en avait-il la vilaine gueule. Joe fit comprendre à Mustapha qu'il pouvait assurer sa protection, mais qu'il faudrait payer. Il ne précisa pas sous quelle forme, mais Vetioglou comprit tout de suite que ce serait sous une forme illégale. Faute de mieux, il accepta et se retrouva dans sa boutique avec quelques brutes épaisses et bas de plafond qui attendirent les envoyés de l'Empire du Mal.
Vous venez d'entendre la première partie de La Rue du Faubourg du Temple. Rendez-vous vendredi prochain, 17h30, pour la suite de cette histoire à la loupe.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Radio Courtoisie, histoire à la loupe. Maria Montoya est propriétaire d'immeubles dans la fin de la rue du Faubourg du Temple vers Belleville. Elle les loue à de nombreux commerçants de diverses nationalités, un bijoutier libanais, un restaurateur chinois, un coiffeur camerounais et sa coiffeuse en chef nigériane, le tenancier sikh du Bazar Palace, et un couple de maroquiniers turcs. La nuit, elle est serveuse dans une boîte de nuit de la rue de la Boétie, l'Élysée Liban, et surprise, se fait repérer par le Libanais Mahoud qui venait y fêter un anniversaire. Peu à peu, tous les commerçants du quartier viennent y festoyer, après y avoir été invités, à condition de garder le secret sur la fausse identité de la serveuse. Chacun ayant fauté avec Maria dans son bureau du Bois de Boulogne, elle leur suggère elle-même de se faire confesser. Mais certains d'entre eux ont une religion qui ne comporte pas le sacrement de la confession. Mustapha Vetioglu décide alors de changer de religion et de recevoir le baptême catholique. C'est là que commencent pour lui et son épouse Yasmina les difficultés. Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie. Vous écoutez la deuxième et dernière partie de La rue du Faubourg du Temple, récit de Patrick Simon, montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Ces derniers vinrent un soir, et pour mieux accomplir leurs abominations avec leurs couteaux et leurs machettes, ils avaient pris une drogue qui les désinhibait. C'était utile quand on voulait torturer et tuer des gens sans défense, mais nettement moins quand une défense s'était préparée, car le produit en question qui donne l'impression à celui qui l'a pris qu'il est un demi-dieu tout-puissant à qui rien ne résiste, peut cependant présenter un inconvénient en affectant la précision de l'acuité visuelle et du mouvement au cas où l'assaillant se heurterait à une riposte plus calibrée. Les truands, eux, n'avaient pas pris de drogue et ils attendaient, lucides et calmes, mais prêts à en découdre. Les monstres entrèrent dans la boutique et ils cassèrent tout. Ils cherchèrent d'abord Yasmina, qui s'était réfugiée dans le sous-sol, là où les truands s'étaient aussi planqués, et attendaient jusqu'au moment où les assaillants y pénétrèrent. C'est alors que la riposte vint, terrible et inattendue pour ces derniers. Les truands leur fracassèrent les membres et le crâne au milieu des hurlements de forcenés, de beuglements de psychopathes. La défaite des tueurs fut totale, puisqu'ils furent tous deux éliminés.
Il a jeté à la mer cheval et cavalier,
chantèrent le maroquinier et sa femme. Par la suite, un message fut envoyé au commanditaire. Vous vous êtes pris une raclée. Si vous n'en voulez pas une deuxième, ne recommencez pas. Mais, possédé par la rage et par la haine qui aveugle ceux qu'elles saisissent, ils recommencèrent. Et ils envoyèrent une nouvelle série de monstres, plus nombreux cette fois-ci. Mais qui furent à nouveau défaits et éliminés comme si ça avait été l'armée d'Armageddon.
Il a jeté à la mer cheval et cavalier.
Après cette deuxième raclée, encore plus mortelle que la première, l'empire du mal se tut, provisoirement terrassé, mais n'ayant nullement renoncé à ses funestes projets, qui furent seulement suspendus, vu la résistance aussi efficace que triomphante qu'ils avaient suscité.
Même s'ils avaient échappé à ces tentatives d'assassinat, et s'ils l'avaient en définitive emporté, grâce à ces hommes de main, le couple n'en fut pas moins traumatisé. En particulier Yasmina, qui perdit ses cheveux et dut porter une perruque, jusqu'à ce que sa tête revînt à un état normal, ce qui advint finalement. Son salut, elle ne le devait en somme qu'à ses voyous. Joe et ses truands présentèrent la note à Vetioglou, qui ne put et ne voulut se dérober à ses engagements. C'est ainsi qu'il se trouva obligé de prêter son établissement à des opérations pas très claires et consistant à blanchir des fonds suspects en les intégrant fictivement à ses ventes de sacs, de valises et de portefeuilles, dont les prix montèrent subitement. Cet argent venait probablement de la vente de stupéfiants ou de la prostitution, à moins que ce ne soit de l'étranger. Vetioglou préféra ne pas le savoir et se voila la face devant de tels tripatouillages. Mais les exigences de Joe ne s'arrêtèrent pas là et visèrent aussi la propre épouse du maroquinier, Yasmina. Joe la désirait et formula son abrupte prétention à Vetioglou, qui fut scandalisé et protesta, mais s'en ouvrit tout de même à Yasmina. Et Yasmina déclara
« Il nous a sauvé la vie. Puisqu'il le faut, je veux bien me sacrifier pour payer la rançon. »
Mustapha perçut dans le ton trop enjoué ou trop mélodramatique de cette acceptation quelque chose d'un peu équivoque et interrogea son épouse plus avant sur ses motivations personnelles. Prêchant le faux pour savoir le vrai, il la sonda. « Je suppose qu'il te déplaît, ce gros porc. » En femme qui a réponse à tout et n'a pas peur des mots, elle répliqua
« Oui, il n'est pas beau. C'est une brute, mais... »
« Mais ?»«
Mais il est viril et plein d'énergie. »
« Mamma mia, c'est donc bien que, si elle est disposée à avaler cette couleuvre, ça ne lui répugne pas tant que ça !» se dit-il. Mustapha entendit alors une voix intérieure murmurer « Parce que tu préférerais que ça lui répugne ?» De ce jour, il n'eut plus l'inquiétude d'un nouvel assaut de tueurs féroces, mais celle du plaisir que Yasmina serait susceptible de prendre avec Joe, lequel ne manqua pas, 100 fois sur le métier, de remettre son ouvrage comme ses exigences. Pour mettre un terme à cette situation qu'il supportait difficilement, Mustapha Vetioglou fit intervenir Maria Montoya, que Joe connaissait bien sûr de l'Élysée Liban, mais qui ignorait qu'elle tenait aussi un bureau au bois de Boulogne. Il lui suggéra d'aller lui faire une visite, ce que Joe fit. C'est à l'issue de cette galante entrevue que Maria évoqua l'affaire de la confession. Celle-ci acheva de le convaincre pour qu'il mît un terme définitif à ses exigences à l'endroit de Yasmina Vetioglou, ce qui fit l'affaire de tout le monde. Enfin, de presque tout le monde. Ainsi, et grâce à Maria Montoya, tout était rentré dans l'ordre dans ce quartier de Belleville. Plusieurs années passèrent.
Ou plusieurs décennies.
Et un jeudi, peu avant midi, un handicapé boiteux se présenta à la boutique Vetioglou. C'était une sorte de niafron, au regard vitreux, souvent dirigé vers ses chaussures. Au début, les tenanciers crurent avoir affaire à un garçon à la timidité extrême, car, après être entré dans le magasin et que la clochette de la porte ait signalé sa présence, il resta planté là, silencieux, et ne prit l'initiative d'aucun mot. Sans doute, se dirent-ils, ne parle-t-il que si on l'a préalablement invité à le faire, ou si on lui a posé une question. Aussi, Mustapha lui posa la question rituelle. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» Il prétendit venir acheter un sac à main pour sa fille, mais à voir sa dégaine très délabrée et son apparence vestimentaire peu soignée, long par-dessus pendouillant, noirci et élimé jusqu'à la corde, Mustapha eut de sérieux doutes sur la vérité de cette assertion. Avait-il seulement une fille et les moyens de lui acheter un sac ? Mustapha et Yasmina commencèrent à se méfier, cherchant un prétexte pour les conduire, sans pour autant qu'on vînt leur reprocher un refus de vente. Pourtant, ils n'eurent pas le temps de prolonger leurs réflexions intérieures, car ils virent ce galeux, ô horreur d'une profonde nuit, sortir de son par-dessus un long couteau de boucher et proclamer « Je suis venu finir le travail !» Saisi d'effroi et sans illusion sur la suite des événements à venir, ils se virent perdus derrière leur comptoir, tant l'assaillant, laissant brusquement tomber le masque, les regardait maintenant en face d'un air vengeur et fanatique, les yeux injectés de sang. À ce moment précis, les 12 coups de midi sonnèrent à l'église d'à côté et furent suivis de la sirène d'une usine qui, au loin, se mit à retentir avec force, comme elle le faisait tous les jeudis à la même heure. Ce bruit tonitruant fut une surprise pour l'agresseur et laissa au maroquinier le temps de réagir. Mustapha saisit alors le crucifix qu'il tenait toujours à proximité dans son tiroir et le brandit devant l'homme qui, déconcerté, recula. À cet instant, la porte d'entrée de la boutique s'ouvrit à nouveau avec son bruit de clochette et Maria Montoya entra. Voyant la croix brandie par Vétioglou, elle dit
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen !»
Le boiteux dissimula son long couteau sous son pardessus et, se retournant vers Maria, la considéra avec intérêt et délectation. Qui allait-il tuer en premier ? Telle fut sa première pensée. Mais soudain, il entendit une voix qui lui disait
« Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? »
Le boiteux cessa à ce moment de boiter et d'avoir l'air d'un pouilleux. Il se mit à sourire largement et déclara « Ah, je suis sûr que vous y avez cru, hein ? Vous avez cru que vous alliez passer votre dernier quart d'heure, non ?» Puis il éclata de rire, ôta son pardessus et se montra au grand jour. C'était Khalil Mahmoud. Passant instantanément de la terreur la plus intense au soulagement le plus délicieux, les époux turcs en eurent leurs sentiments tout retournés et agités, car après le soulagement, ils se mirent à s'indigner et formulèrent les plus vifs reproches aux Libanais pour avoir organisé cette sinistre farce. Ils étaient convulsés à l'idée que leur cœur aurait pu lâcher face à cette épreuve, que la plaisanterie n'était pas drôle et de très mauvais goût, qu'elle faisait remonter à leur mémoire des traumatismes horribles dont ils étaient enfin et à grand-peine sortis. C'est Yasmina qui proféra les plus vives imprécations, elle qui, après les deux tentatives d'assassinat dont elle avait été l'objet avaient perdu pendant longtemps et l'appétit et la plupart de ses beaux cheveux, au point qu'elle fut obligée de porter une perruque en attendant qu'il repousse, rappela-t-elle. Et encore, perdu la joie de vivre, elle qui avait remonté la pente, ne l'avait remontée que péniblement, s'attachant à décrire par le menu tous ses malheurs. Mahoud, bien sûr, se confondit en excuses les plus plates et les plus dégelées, mais non dénuées d'une légère ironie, car il s'était manifestement amusé de leur jouer cette comédie. Maria Montoya observa.
Vous, qui après cette attaque aviez cessé de rire, vous qui aviez cessé de pratiquer aucun sport, vous qui n'alliez plus à aucune festivité d'amis et ne sortiez plus au restaurant ou au cinéma et ne parliez plus jamais de ces sinistres événements, vous allez avoir de nouveau l'occasion d'en parler en riant, car ils sont devenus comiques.
Et tous les quatre, ils s'esclaffèrent et se mirent à rire longtemps. C'est à partir de ce jour que Maria changea d'activité professionnelle. Elle fit des études de médecine et de psychologie et devint psychiatre, car elle avait mis au point une méthode spéciale, assez éloignée de celle du docteur Freud et plus proche de celle du docteur Jung, comment rendre comique un événement tragique pour lui faire perdre son effet traumatisant. Cette méthode s'avéra efficace pour certains patients qui vinrent la consulter. C'est ainsi qu'une kleptomane qui voulait se débarrasser de cette tare eut recours à ses services. Elle lui dispensa le conseil suivant.
« À chaque fois que vous aurez effectué un vol, vous rendez l'objet ou l'argent à la victime, mais vous le faites en bégayant et en ayant l'air ridicule avec plein de tics ou de clignements d'yeux. »
De même, un insomniaque qui n'arrivait pas à dormir sans faire de cauchemar se vit recommander de regarder des films à sketch de Jerry Lee Lewis. C'était son comique préféré. Ou de Laurel et Hardy, ou de Louis de Funès, juste avant de s'endormir. Un claustrophobe d'aller dans sa cave faire des mouvements de gymnastique athlétique en hurlant des airs d'opéra ou des cocoricos. Un agoraphobe de se plonger dans une foule en marchant à cloche-pied et en se tenant une cheville. Ces techniques ne réussissaient pas toujours, mais elles avaient généralement un effet de distanciation qui permettait de prendre du recul et surtout, elles permettaient ou donnaient la possibilité de se moquer de soi-même.
C'est avec des bègues qu'elles eurent le plus de succès. Certains d'entre eux n'arrivaient pas à articuler correctement et de façon fluide une phrase, ou n'y parvenaient qu'après tant d'efforts que leurs auditeurs épuisés avaient déjà oublié le début de la phrase. Le pire fut le cas d'un garçon qui non seulement bégayait, mais encore ne parvenait pas à respecter la concordance des temps, commençant au présent, puis sautant au futur. Enfin, une fois qu'il s'était aperçu de son erreur de verbe, se mettait à grogner comme un goret et interrompait ses paroles poussives par un silence, soudain, comme s'il était devenu muet d'un seul coup. Sans doute un vide mental. Ce fut le cas le plus difficile qu'eut à traiter Maria Montoya. Aussi mit-elle au point un procédé qu'elle dénomma la méthode Moïse. Quand Dieu l'envoya demander au Pharaon la libération du peuple hébreu, Moïse était bègue. Mais à chaque fois qu'il devait dire une chose importante qui n'était pas de son cru, le bon Dieu lui soufflait un mot. Et ça suffisait pour qu'il le prononçât clairement, sans bégayer.
« Pluie de sauterelles »
ou
« fleuve de sang »
ou encore
« épidémie sur le bétail »« chute de grêle ».
les sept plaies d'Égypte furent ainsi annoncées. Peut-être Maria fut-elle inspirée par le Très-Haut. Toujours est-il qu'elle appliqua cette astucieuse recette de la catharsis interruptive. Le scénario avait été préalablement convenu avec chacun de ses patients. Il devait, à sa demande, développer un raisonnement. Et dès qu'il commençait à s'empêtrer dans le bégaiement, elle interrompait leur langage embarrassé sur un ton qui n'était pas habituellement le sien et au moyen d'expressions incongrues telles que
« Turlututu, chapeau pointu, poil au nez »
ou vulgaires comme
« Et ta sœur ?»
ou
« Va te faire voir chez les Grecs »
ou « Prétentieuse ».
Tout cela n'est rien comparé à l'éternité.
Après quoi, elle prenait cet air niais et gentillet que les adultes adoptent lorsqu'ils s'adressent aux handicapés mentaux ou aux jeunes enfants pour les encourager.
« Bien, mais pourriez-vous passer à la vitesse supérieure ?»
proclamait-elle. Puis
« Bien, mais plus vite maintenant !»
Puis
« Encore plus vite !»
Enfin, elle criait
« La gifle !»
Ce qui voulait dire que le patient devait d'abord asséner une bonne baffe sur la thérapeute. Au début, il le faisait mollement, n'osant pas s'en prendre à cette éminente praticienne. Mais lorsque Maria leur demandait d'y aller avec plus de vigueur, car cela faisait partie du traitement, ils se conformaient alors à ses directives et lui administraient une véritable beigne, ce qui provoquait en retour une réaction du même type du médecin sur le patient. La séance ne tournait pourtant pas au pugilat, car Maria y mettait un terme en ordonnant à son client de dire
« Excusez-moi de vous demander pardon, chère doctoresse. »
Mais il devait le faire en bégayant, en imitant cette fois-ci volontairement son bégaiement initialement pathologique. C'est ainsi qu'au bout de multiples séances, les malades guérissaient. Le coup de l'imitation volontaire se révélant une ingénieuse catharsis sur la tare initiale. Mais ça, c'était après.
Après quoi, punaise ?
Après que l'empire du mal se soit effondré. Ah, vous ne saviez pas ?
Comment voulez-vous que je sache si vous ne me le dites pas ?
Ah, mais je croyais que c'était évident, que c'était implicite.
Expliquez-vous, bon sang !
Bien. Les empires du mal s'effondrent toujours. Vous ne saviez pas ?
Non. Et pourquoi donc ?
Parce qu'ils sont rongés de l'intérieur par le mal qui les habite. Regardez la chute du mur de Berlin en 1989.
Ah, je vois ce que vous voulez dire. Mais la chute du mur de l'islamisme n'est pas encore advenue.
Pas encore, vous êtes sûr ? C'est que notre metteur en scène s'est permis de comprimer un peu les époques et les décennies, le passé et l'avenir, les lieux et les pays, de sorte que on ne sait plus très bien où nous en sommes.
Vous venez d'entendre la dernière partie de La rue du Faubourg du Temple sur un récit de Patrick Simon. Histoire à la loupe.
Radio Courtoisie. Voilà, c'était les deux épisodes. Et vous allez maintenant entendre La championne.
Radio Courtoisie. Histoire à la loupe.
C'était une famille nombreuse que celle des Santos d'Orchères. Quand on entrait chez eux, il y avait toujours du bruit. Des bruits d'enfants, les leurs, et puis des cousins et cousines, et des copains et copines. C'est que, fervents catholiques,
il rendait grâce au Seigneur à chaque fois que, bénédiction du ciel et puissance de la lumière perçant même à travers une épaisse futaie, un bébé voyait le jour en sortant du ventre de sa mère.
Vous écoutez les histoires à la loupe de Radio Courtoisie. Voici La Championne sur un récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Pamela fut leur dixième. Elle était venue sur le tard, après une période infertile de quelques années, qui leur avait fait craindre que leur neuvième fût leur dernier. Mais leurs prières furent tout de même exaucées, et ils se dirent, paraphrasant Corneille, le désir s'accroît quand les faits se reculent. Cet enfant tant désiré semblait, par l'accueil enthousiaste à lui réservé, promis à l'avenir radieux de la reine d'un empire fastueux, au point qu'il lui avait donné comme deuxième prénom celui de Bethsabée, en souvenir du roi David, le huitième et dernier enfant de Jessé que Samuel avait envoyé chercher après avoir décliné tous les autres. Les parents allaient pourtant vite déchanter. En effet, la Pamela apparut à tous comme dépourvue d'intérêt ou de désir pour quoi que ce soit, indifférente à tout ou prostrée dans une inertie lymphatique. Au début, on crut à un simple retard à l'allumage, imputable à la petite enfance. Mais les années passant, ils durent se résoudre à constater que l'enfant était doté d'un vocabulaire très limité, ainsi que d'une aptitude très réduite à commercer avec ses semblables. Qu'est-ce à dire ? Se demandèrent-ils, inquiets en apercevant ses défauts, et consternés lorsqu'ils les comparaient aux évidentes qualités de dynamisme physique et d'expressions éloquentes que leurs autres 9 enfants, filles ou garçons, avaient tous eu au même âge. Un temps, ils espérèrent que l'école améliorerait Pamela Bethsabée, et pour en stimuler l'effet bénéfique, ils se décidèrent à la mettre très tôt dans un environnement social, crèche, école, centre de loisirs, où, espéraient-ils, d'autres gosses du même âge seraient susceptibles de la faire sortir de sa torpeur persistante ou de son souverain détachement. Dès son arrivée dans l'école, elle fut fortement sollicitée par toute une série de provocations ludiques de la part de ses camarades. 3 d'entre eux, dans la cour de récréation, n'avaient pas hésité à baisser leurs culottes pour lui montrer leurs fesses en ricanant. Mais pétard mouillé qui retombe, feu d'artifice qui s'éteint dès son lancement, ils ne réussirent pas à susciter la moindre réaction de rire ou de colère de sa part. Ils recommencèrent pourtant cette farce sans obtenir davantage de succès. Aucun jeu, ni aucune blague, ni aucune moquerie, ni même aucune brutalité, rien n'y fit. Et peu à peu, les autres gosses finirent par éviter la demoiselle, accentuant ainsi son isolement. Telles furent les premières années de la gamine. Vie morne, placide et sans relief, si l'on voit le verre à moitié vide, ou d'une stoïque et majestueuse indifférence, si on le voit à moitié plein. Cependant, cette absence de passion ou de conviction connut un jour une petite exception. Alors qu'on promenait la petite à la campagne, ou plutôt qu'on la traînait à la campagne pour lui faire prendre l'air, voici que, coup de cymbale dans un silence morose au détour d'une clairière et sortant brusquement d'une forêt obscure, apparut au grand galop un cheval au poil roux monté par une cavalière casquée. À la vue de ce magnifique alezan, Pamela, sortant tout d'un coup de son indifférence blasée ou de son ennui lancinant, manifesta pour la chose un intérêt des plus vifs. On sentait naître en elle l'admiration, puis l'envie. Les parents se dirent alors qu'il tenait là peut-être quelque chose de plus solide, et ils l'inscrivirent aussitôt à un cours d'éducation pour débutants. Cet essai s'avéra concluant et même décisif. La petite commença à gagner concours hippique sur concours hippique, d'abord locaux, puis régionaux, puis internationaux. Adulte, elle devint une championne d'équitation. Son père avait une ferme avec plusieurs chevaux à Sao Paulo. Rassuré de la voir se passionner enfin pour quelque chose et prendre cette voie royale du jumping, il lui confia la gestion de cette exploitation agricole. À Sao Paulo, elle habitait à l'extérieur de la ville et était logée dans une petite maison. Elle préférait vivre à la campagne, car elle entendait s'occuper, bien sûr, des chevaux. Elle ne mettait jamais de réveil, car elle n'avait pas besoin de l'entendre sonner pour sortir du sommeil. En effet, dès 6 heures, une autre forme de réveil sonnait. Ses pieds s'agitaient fébrilement et elle se mettait à rire en dormant. Ses symptômes n'étaient pas seulement une façon naturelle de commencer la journée en avance sur tous les autres, mais sans l'aide artificielle de la technique des appareils, c'était surtout l'expression d'une impatience subrepticement enfouie toute la nuit dans son sommeil et qui, tous les matins, émergeait systématiquement à la même heure, quelles qu'aient été les circonstances de la veille. C'était l'impatience d'un zèle équestre.
Après de rapides préparatifs et un habillage sommaire, je déboulais de ma chambre et je sortais m'occuper des chevaux, les soigner, leur donner à manger, les nettoyer à la paille et à la brosse. Au palefrenier, je ne laissais que le ménage de l'étable. Leur caresser le cou et la partie du cou où leur gorge pendouille, c'était celle que je préférais. Après quoi, je scellais et fixais le filet à celui que je choisissais pour la promenade en forêt. C'était souvent flamenco, parfois faria. Je ne m'estimais véritablement réveillée qu'après cette balade d'à peine 3 quarts d'heure, après avoir douché le cheval ou la jument au jet d'eau et m'être aspergé moi-même le visage et le corps avec ce jet d'eau froide. Alors et seulement alors, je m'autorisais une collation, confiture de figues et gouda au cumin, avec café noir fumant plus feijoada. Une fois ces formalités accomplies, je daignais ouvrir la bouche pour prononcer des mots. formule de politesse conventionnelle ou expression spontanée moins stéréotypée, selon la circonstance. Hiver comme été, sous la pluie comme sous le soleil, dans la nuit fraîche et humide qui s'achevait, comme dans la clarté naissante des premiers rayons du jour, je commençais mes journées par cette promenade équestre qui me remettait mes idées en place. Quand j'étais préoccupé par une difficulté, arrêté dans un projet, chiffonné par des états d'âme, saisi par un doute existentiel, ou au contraire agité par des irritations, je remettais ma décision au lendemain, je l'ajournais, jusqu'à la promenade à cheval. Le lendemain, et une fois en selle, lorsque flamenco ou faria étaient au pas, je réfléchissais calmement, pendant que dans le silence du petit matin, me parvenaient quelques bruits distanciés. Un coq qui chantait, une cloche qui sonnait dans l'église à peine audible, ou des clochettes de vaches qui tintaient au loin. Le tumulte de la vie n'avait pas repris à cette heure, de sorte que mon attention n'était pas encore distraite, et je pouvais me concentrer sur le sujet à résoudre. Ma volonté cessait d'être récalcitrante ou dubitative et faisait jaillir la décision. Avant ces petits rituels bien calibrés et chronométrés, il ne fallait pas espérer me tirer la moindre parole. C'eût été comme m'extraire une dent de sagesse. Et puis, lentement, mais inexorablement, je commençais à parler. Mon vocabulaire s'enrichissait. Mon débit vocal s'accélérait. Mon ton passait du grave à l'aigu. Mon visage s'animait. Mes expressions devenaient même parfois truculentes ou alambiquées. Une fois cette montée en puissance effectuée, je prenais mon rythme de croisière. Si l'on souhaitait avoir un échange sérieux avec moi, ou au moins une conversation affable, fallait attendre ce moment. D'ailleurs, si je me levais si tôt, je devais avoir mes raisons.
On pouvait imaginer l'une de ces raisons. Comme son aptitude au commerce avec les humains était nulle, tant qu'elle n'avait pas fait sa promenade, douché le cheval et pris sa collation, sans doute s'arrangeait-elle pour se livrer à ses pratiques à une heure si matutinale qu'elle lui évitait toute rencontre inopportune susceptible de révéler qu'elle était alors fermée comme une huître. Toujours est-il que ses habitudes, chaque jour sur le métier remettez votre ouvrage, lui conférèrent une aisance et une facilité en matière équestre, tel un pianiste qui fait ses gammes chaque jour, ou un haltérophile qui chaque jour soulève ses poids. Elle vola d'exploit en victoire et gagna presque tous les concours hippiques. Elle s'était consacrée exclusivement aux sauts d'obstacles. Pourtant, ses capacités, son haut niveau d'équitation ne lui fermaient aucune des autres activités hippiques telles que le dressage, les figures, les randonnées de plusieurs journées, l'attelage ou même simplement la reprise classique. Pourquoi diantre une telle exclusivité?
La raison était secrètement enfouie dans les profondeurs de mon corps. Je disposais, en effet, d'une formule magique. Quand le cheval franchissait la barre avec succès, parce que je l'avais stimulé au bon moment, je jubilais avec une intensité telle que, plus souvent qu'à mon heure, cette euphorie se manifestait de façon incongrue par un oubli. Je faisais pipi dans ma culotte et ne pouvais me retenir au point que j'étais obligée de porter des couches. Et encore pire pour une femme de ma condition, si bien éduquée, si polie et surtout si respectueuse des gens. Je lâchais un paix, voire plusieurs paix. Heureusement, le brouhaha environnant du public, les annonces de score aux haut-parleurs couvraient ces expressions sonores fâcheuses autant que malséante. Mais le risque persistait. Et il me fallut le traiter. Or, je n'y parvenais pas. Mon organisme persistait à s'exprimer de la sorte, malgré tous mes efforts, et contre vents et marées. Cette contrariété me rendit plus opiniâtre, et plus déterminé, et me fit multiplier les succès. Je m'étais résolu à aller consulter un médecin.
Urologue ou psychologue ?
Pour me guérir de cette tare et y apporter un remède définitif, lorsque se produisit un événement relativement rare. J'échouais à l'une de ces compétitions. Le cheval avait refusé l'obstacle. Et j'avais fait une chute. Puis, à une seconde occasion, je ratais à nouveau, sans chute cette fois-ci, mais le cheval avait fait tomber la barre. Enfin, une troisième fois, je réussis à passer toutes les barres avec succès, mais c'est le temps réalisé qui fut trop lent par rapport à celui des autres cavaliers. Or, à chacune de ces épreuves, je constatais que je n'avais subi aucune incontinence urinaire, ni n'avais lâché le moindre pet. Voilà qui me plongea dans un abîme de perplexité. Qu'est-ce à dire ? Fallait-il donc que je pétasse ou que je pissasse pour réussir le concours ? Me demandai-je. J'en tirai pourtant cette funeste conclusion et de ce jour n'eut plus d'inquiétude de lâcher ses pets, mais au contraire de ne plus les lâcher du tout, car ils étaient le signe, certes honteux mais tangible, croyais-je, de la réussite.
Pour se guérir de cette infirmité, ou de cette absence d'infirmité, elle alla consulter un spécialiste, plutôt une psychologue. Car elle sentait bien que, si elle souhaitait retrouver son incontinence urinaire, c'est qu'il y avait quelque chose en elle qui ne tournait pas rond. Voici comment l'éminente thérapeute, une certaine Maria Montoya, décrypta le problème.
Josette, la dernière d'une fratrie de 10 frères et sœurs, tous intelligents, drôles, sympathiques, de bonne humeur, et ayant réussi leur parcours scolaire. Donc vous êtes jalouse ? Et vous désirez que vos parents vous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Alors vous adoptez par dépit un comportement inverse au leur en choisissant de vous retirer du monde par mécontentement. Jusqu'au jour où vous voyez une cavalière faire sauter des obstacles à un cheval. Ces sauts constituent une revanche symbolique sur vos frères et sœurs. En devenant championne, vous aussi, vous les surpasserez. Mais ces efforts vous rappellent inconsciemment les déboires et les tourments de votre jeune âge. Quand vous étiez moqué par les autres enfants, en mémoire de ce fâcheux souvenir, vous faites pipi. Mais quand vous échouez en équitation, vous ne faites plus pipi, car vous ne les surpassez pas, les membres de votre fratrie. Puisque vous êtes revenu à votre état antérieur, et les souvenirs se sont donc effacés. C'est un dilemme. Attirer l'attention des parents en surpassant les autres, mais regretter et pipi. Ou plus de pipi, mais ne plus attirer l'attention.
En entendant cette explication péremptoire, Pamela eut de sérieux doutes. Elle n'avait jamais éprouvé de sentiment de jalousie à l'égard de ses frères et sœurs, ni fait le moindre parallèle entre saut d'obstacle et revanche symbolique, ni eut le désir de rechercher la préférence de ses parents. Ce cuistre galimatia ne serait-il pas un habillage de charlatan, se dit-elle. En termes plus châtiés et plus diplomatiques, elle s'en ouvrit délicatement à la doctoresse qui répliqua
C'est parce que vous l'ignorez. C'est dans votre inconscient. Et votre conscient ne veut pas le voir. Le mal n'est pas dans la société qui vous entoure, ni même dans votre âme consciente. Il se cache, tapis dans votre inconscient. Mais, docteur, avec de tels raisonnements, vous pourriez excuser tous les crimes des humains. Pas les excuser, mais en comprendre les motifs pour empêcher le passage à l'action. En attendant, que dois-je faire pour avoir une vie satisfaisante? Remplacer le pipi par un autre dérèglement. Par exemple, je ne peux pas faire le travail à votre place. C'est à vous de le trouver ou de l'imaginer.
Punaise, elle en avait de bonnes, la doctoresse. C'était loin d'être évident. Malgré tout, Pamela se mit en peine de rechercher ce que le médecin avait appelé le remède de substitution. Elle essaya d'abord ce qu'elle dénomma le cri primal.
Oh,
hurlant à toute berzingue.
Oh,
à chaque saut.
Yeah.
Mais elle constata que ce procédé, outre qu'il était peu discret et peu élégant vis-à-vis du public, ne l'empêchait pas d'échouer et n'avait pas d'efficacité certaine et garantie, puisque même en cas de succès, les fuites recommençaient, parfois par intermittence, quoique pas de façon systématique. L'organisme corporel était simplement un peu déréglé. Il lui fallut chercher autre chose, quelque chose de plus sophistiqué et subtil. C'est alors qu'elle eut l'idée de remplacer l'écoulement urinaire par un écoulement lacrymal. Par une sorte de hautaine fierté ou de sécheresse de cœur, elle ne pleurait presque jamais. Comment faire venir des larmes au moment fatidique du saut? Elle essaya d'y parvenir au moyen de gouttes de citron dans les yeux, mais comme elle ne pouvait s'en administrer à cheval lors de l'épreuve, c'était toujours trop prématuré ou trop court. Sauf une fois, où elle n'avait pas eu besoin de citron. Elle avait entendu un tam-tam au loin dans la pampa qui lui avait rappelé l'arrivée tonitruante du splendide destrier dans la clairière dans son enfance. Son père tenait à ce moment à la main un petit transistor qui diffusait une musique rythmée de tam-tam africain. La scène avait été mentalement associée à cette musique et donc à l'émotion qui en était résultée. Ayant retrouvé un joueur africain de cet instrument, elle lui proposa l'arrangement suivant.
Avant chaque saut, tu frappes ton tambour et tu arrêtes dès que j'ai sauté. Et tu recommences à chaque nouvel obstacle. Tu fais un crescendo quand c'est particulièrement bien sauté, d'accord? Combien tu veux pour faire ça?
Mais rien du tout. Ça m'amuse, voilà tout.
Bon, mais faut être précis. C'est pas un boulot d'amateur, Joe.
T'inquiète pas, ma belle, je suis un pro. Il lui dit, sûr de lui. Et tout fonctionna au quart de pile poil, avec à la clé la médaille d'or du concours. Pamela embaucha Joe pour ses futures compétitions. Au bout de quelques épreuves, ce petit stratagème musical fut remarqué par l'arbitre et par un observateur. Mais qui pouvait s'en plaindre? Ce n'était pas un dopage prohibé par le règlement. L'arbitre suggéra alors de mettre cette musique pour chacun des candidats. Certains n'aimaient pas, d'autres oui. Certains demandèrent d'ajouter un coup de trompette lors du saut. D'autres demandèrent d'ajouter de la caisse claire. Cela devint presque un concert. Les concours hippiques étaient devenus musicaux. Mais cela ne gênait pas Pamela que d'autres cavaliers bénéficient d'un soutien musical. Ce qui comptait pour elle, c'est que Joe tambourine au moment fatidique pour faire venir ses larmes. Et ça marcha à tous les coups. Qu'allait-elle faire pour la suite des concours ? Arrêter la musique pour être parfaitement normale, avec le risque d'échouer de nouveau, ou recommencer le tam-tam ou le pipi pour réussir à nouveau ?
Faudrait peut-être consulter à nouveau la psychologue.
Celle-ci eut à cœur d'appliquer une technique médicale qu'elle avait récemment introduite, celle de la distanciation, qui donnait de bons résultats, notamment avec des bègues, et qu'elle dénommait la méthode Moïse. Pamela Santos fut guérie même de ses larmes. Mais un mal chassant l'autre, elle se mit alors à bégayer et revint voir la doctoresse Montoya, laquelle lui dit sans embâge
« Si je vous guéris du bégaiement, ne craignez-vous pas de recommencer à pisser et à péter ?»
Après cette réflexion, il y eut un blanc. Mouche s'arrêtant de voler, silence soudain sur la pampa, qui suspend le moindre clapotis. Puis les deux femmes se dévisagèrent et se mirent à rire, à rire, à rire, sans pouvoir arrêter leur fou rire.
Vous venez d'entendre le récit La Championne de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau récit. Histoire à la loupe.
Et voilà, prochaine émission le 31 juillet. Et là, ce ne sera pas des histoires de championnes, mais nous repasserons des feuilletons de la série policière. À bientôt, amis auditeurs.
Vous l'entendrez, il était une fois de Patrick Simon, diffusé sur Radio Courtoisie vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 21h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.